Vous écoutez Radio Ndeke Luka, c'est l'heure de suivre le journal, une présentation de Rolf Steve Domialeux. Rolf, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane, bonjour à tous. Le sommaire. Célébration ce lundi 11 mai de la 5e journée commémorative de la mémoire des victimes des conflits en Centrafrique. Certaines victimes ont déposé ce matin un gerbe de fleurs sur leur monument à Fatima et remis un mémorandum au gouvernement. Au sommaire également, l'initiative parlementaire de modifier partiellement la constitution est illégale et anticonstitutionnelle. C'est la position d'un panel de juristes centrafricains. Et puis, les mesures barrières contre le coronavirus sont-elles respectées dans les transports en commun? Reportage de Alexia Félix Angbandi à suivre dans ce journal. Le ministère de la Jeunesse et des Sports réagit à propos de la décision de la CAF qui suspend les matchs des seniors masculins au complexe sportif Barthélemy Boganda.
Rolf, la République centrafricaine célèbre ce lundi 11 mai la 5e journée commémorative de la mémoire des victimes des conflits en Centrafrique.
Il n'y a pas eu grande manifestation à cause des mesures préventives contre le Covid-19. Un dépôt de gerbes de fleurs s'est déroulé au monument des victimes des événements de Fatima et un mémorandum a été remis au Premier ministre, chef du gouvernement. Un mémorandum que la coordination des associations des victimes qualifie de cri de cœur. Hervé Séverin Lidamant, président national des associations des victimes, revient sur le contenu de ce document au micro de Emmanuel Samboli.
Nous, les organisations des victimes, nous avons tenu remettre au Premier ministre notre cri de cœur par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la situation des victimes. Notre cri de cœur, c'est que le peuple centrafricain a trop souffert. On a perdu beaucoup de parents. Donc, on n'est pas prêt pour courir en langage vulgaire. On n'est pas prêt pour revivre encore les scènes du passé. On n'est pas prêt pour aller réhabiter les camps de prestige qu'on a l'habitude de dire ledger. Nous demandons aux groupes armés qui sèment du désordre, laisser la population tranquille. En ce qui concerne la justice, nous sommes des victimes. Notre souhait, c'est de voir les bourreaux répondre de leurs actes devant la justice. Et nous prions la Cour pénale spéciale, la Cour pénale internationale et les tribunaux ordinaires à tout mettre en œuvre pour que nos victimes puissent retrouver la paix du cœur.
Le Premier ministre qui a réceptionné le mémorandum promet de discuter avec les leaders des différentes associations des victimes dans les prochains jours.
Le panel des juristes sort du silence pour éclairer la population au sujet de la révision partielle de la Constitution qui agite la classe politique centrafricaine ces derniers temps.
Selon le constitutionnaliste Dominique Désiré Erénan, un des panélistes, l'initiative de la modification de la loi fondamentale enclenché par certains parlementaires est illégal et anticonstitutionnel. Pour lui, l'Assemblée nationale actuelle n'est pas qualifiée pour réviser la Constitution du 30 mars 2016, Jean-Eudes Bagali.
Cette rencontre qui se veut scientifique selon les initiateurs leur a permis de montrer leur position du point de vue de droit. Ceci pour aplanir le doute autour de ce sujet de modification constitutionnelle qui fait beaucoup couler d'encre et de salive. Les trois animateurs du débat, tous enseignants à l'université de Bangui, notamment maître Albert Panda, Thierry Arafa et Dominique Désiré Erénan, les deux derniers docteurs en droit, ont chacun clarifié leur position sur cette question. Docteur Dominique Désiré Erénan n'est pas passé par quatre chemins pour qualifier d'illégal et anticonstitutionnel la proposition de la révision constitutionnelle initiée par les députés de la majorité parlementaire.
La démarche actuelle de nos parlementaires qui vise à la modification de l'article 35 pour proroger le mandat du président de la République, qui vise à la modification de l'article 68 pour proroger le mandat des députés, est dépourvue de base légale et de base constitutionnelle. Donc, d'un point de vue juridique, elle ne tient pas. L'Assemblée nationale ne dispose pas à elle seule, au jour d'aujourd'hui, de ce qu'on appelle du pouvoir constituant, c'est-à-dire le pouvoir d'initier la révision de la Constitution.
Docteur Thierry Arafa, qui n'a pas clairement soutenu ni désapprouvé cette initiative de révision constitutionnelle, propose néanmoins le consensus entre les acteurs de la vie politique pour endiguer cette crise.
La Constitution n'a prévu aucun cas de force majeure. Ce concept n'est pas intégré dans notre Constitution, on ne peut pas. La seule voie, moi je pense, c'est de passer par la consultation des forces vives de la nation au cas où il y a glissement calendaire.
Maître Albert Panda, de son côté, regrette que la Constitution du 30 mars comporte des faiblesses car elle n'a pas prévu de cas de force majeure. Il souhaite que la Cour constitutionnelle se saisisse de la situation pour mettre un terme à cette polémique.
Cette Constitution comporte des lacunes et nous nous trouvons là dans une situation qui nous interpelle. On doit mettre la Cour constitutionnelle au centre du dispositif pour régler ce problème.
Le projet de la révision partielle de la Constitution est pour l'heure sur la table du gouvernement. Après examen, le texte sera soumis à la Cour constitutionnelle pour vérification de la conformité avant de le soumettre au Parlement pour adoption.
Rolf, mettons le cap sur Carnot, dans la Mambéré KDI, où l'accès à l'acte de naissance reste encore un problème pour les habitants.
Oui, Verdiane, pour trouver une solution, Evariste Ngamana, ressortissant de la localité, a fait un don du registre d'acte de naissance à la municipalité. Les notables de Carnot demandent plus d'indulgence de la part des autorités judiciaires pour la réussite de ce projet. Igor Djeskin-Sinapai.
Les statistiques à la mairie de Carnot font froid au dos. Pour une population de presque 100 000 habitants, seulement une dizaine de naissances ont été déclarées à l'état civil de la ville ces derniers jours. La majorité de la population n'est pas en mesure de se procurer ces documents administratifs faute de moyens financiers. Sensible à cette préoccupation, Evariste Ngamana, ressortissant de la localité, propose une alternative à travers cette donation des registres d'actes de naissance.
Nous avons eu écho que la ville de Carnot faisait face à ce problème. Date de naissance, bref, des documents officiels pour les enfants nouveau-nés et même pour certains adultes qui les ont égarés pendant la crise. Et nous avons estimé que nous pouvons apporter notre modeste contribution pour régler cette question. C'est ainsi que nous avons mis à la disposition de la municipalité quelques registres date de naissance et de jugement supplétif.
Un acte salué par Evariste Dolé, maire de Carnot. Selon lui, la population peut désormais se rendre à la municipalité pour se faire délivrer ses actes de naissance.
Donc on va lancer l'avis à ces Centrafricains qui sont à Carnot, qui n'ont pas d'acte de naissance, d'approcher au niveau de la municipalité que la donne a changé. Donc cette fois-ci, avec vos présences ici, avec tout ce que vous avez dit, avec l'appui du rapporteur, et on va essayer de délivrer ces actes de naissance.
Le premier citoyen de la ville de Carnot demande par ailleurs au tribunal de grande instance d'alléger les conditions de la délivrance des jugements supplétifs afin d'encourager la population à se procurer ce document administratif.
C'est un problème au niveau des autorités judiciaires. Ils compliquent alors que ailleurs, que ce soit à Bangui, dans d'autres municipalités, c'est facile. On octroie l'acte de naissance aux Centrafricains, mais c'est aux étrangers qu'on devrait prendre beaucoup de mesures.
Aujourd'hui, la majeure partie des habitants de la ville de Carnot a perdu ses actes de naissance suite à la crise qui a secoué la région. Faute de moyens financiers, les parents peinent encore à produire ces documents pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Igor Djeskin, ce n'est pas de retour de Carnot, Radio Ndekeluka.
Parlons de coronavirus. Rolf, les mesures barrières sont-elles respectées dans les transports en commun?
Oui, Verdiane, pour savoir comment les gens se comportent dans les taxis et bus à Bangui, Alexia Félix Ngbandi a fait le trajet centre-ville PK12, reportage.
Vendredi 8 mai, il est 11h passé. Ici devant le barque, nous arrêtons un bus. Avec un passager déjà à côté du chauffeur, il nous demande de monter à bord. C'est interdit que deux passagers montent à la cabine.
Moi, je sais, elle descend au croisement 4e.
Deux passagers devant, chose qui est déconseillée. Départ pour le PK12. Un coup d'œil derrière, au moins une dizaine de passagers sont assis, deux par siège et sa papoute. Dans ce bus, personne ne se protège, ni le chauffeur, ni les clients. Le receveur explique qu'il n'aime pas le masque car ça l'empêche de bien respirer. Vous ne portez pas de masque?
Quand je le porte, je ne respire pas bien.
À hauteur du terrain Patassé à Fou, des gendarmes en service arrêtent le bus pour s'assurer du respect des mesures contre le coronavirus.
Vous pensez qu'on peut faire de surcharge tout proche d'ici?
Le contrôle terminé, le chauffeur roule à toute allure pour rattraper le temps perdu. À l'entrée du lycée Gopongo, une femme monte à bord avec deux enfants.
Tu vas les porter tous les deux? Tu ne sais pas que c'est de surcharge?
Non, je porte un et l'autre se met debout près de moi.
Après 23 minutes de trajet, nous arrivons au PK12, tout le monde descend. Nous quittons ce bus pour un taxi. Direction le centre-ville. Dans ce taxi, la distanciation sociale est respectée. Deux passagers derrière et un seulement devant. Cependant, le chauffeur n'a aucun dispositif de protection.
Moi, je préfère avoir trois masques parce que sa durée est de 4 heures de temps et puis c'est vendu à 1 000 francs.
Nous voici enfin arrivés au centre-ville. Ce parcours témoigne le quotidien des Bangui-Sois dans les transports en commun en cette période de la pandémie de coronavirus.
Dans la Mambéré-Kadéhi, le ministère de la Santé effectue des tests de dépistage du Covid-19 depuis la semaine dernière.
Plus de 900 personnes vont être dépistées pendant cette opération qui a commencé à Gamboula, Dédé Moukouba et Berberati. La mission a quitté Berberati hier pour Karno. Selon les responsables sanitaires, les résultats de ces examens seront envoyés à l'Institut Pasteur de Bangui pour vérification. Docteur Jean-Thierry Béoundé, un des membres de cette mission, regrette que la population n'ait pas encore perçu le danger que représente cette pandémie malgré les sensibilisations sur les mesures barrières. Il est au micro de notre correspondant René Pierre Ndoumbé depuis Berberati.
On est venu avec 300 tests et ces 300 tests, nous avons pris des dispositions pour commencer d'abord par la sensibilisation, les formations, ensuite la cascade de prélèvements au niveau des frontières. On a commencé à Gamboula, on a continué à Dédé et à Sosona Combo. Et sur place, on a encore eu 200 tests qui sont arrivés. Au jour d'aujourd'hui, on a eu cette nuit 400 tests de plus. Donc on a continué notre évaluation et les prélèvements à Berberati. Depuis deux jours, nous allons continuer sur Carnot. Au total, on peut dire qu'on a eu 900 tests. Je suis avec toute l'équipe, nous sommes conscients que beaucoup de jeunes ou des populations dans la Mambéré-Kadéhi sont inconscients. Ils ne respectent pas totalement ces mesures barrières. J'ai vu des gens qui sont agglutinés dans la ville et qui ne comprennent pas que quand on parle de distanciation, ce n'est pas de l'amusement. Donc je pense que vraiment, on va continuer à mettre l'accent dessus. Même si on est parti, le travail va continuer en termes de sensibilisation.
Et Rolf, désormais les habitants de Nanabakassa, deux peuvent se prévenir du Covid-19.
Oui, Verdian, jeudi dernier, et ce, pendant deux jours, ils ont été sensibilisés sur cette maladie et dotés en kit d'hygiène. Une initiative du député de la localité, Florent Kema, qui vise à freiner la propagation de cette pandémie. Pour correspondance de Raphaël Nganaré.
Florent Kema, député de Nanabakassadé, a sillonné jeudi et vendredi dernier sa circonscription électorale. Objectif, sensibiliser ses électeurs sur les gestes barrières édictés par les professionnels de la santé et le président de la République afin de lutter contre le coronavirus. Dans ses messages de circonstance, le représentant du peuple a mis un accent particulier sur le strict respect de ses principes fondamentaux. Selon lui, c'est le seul remède qui soit, car depuis la découverte de cette maladie, aucun vaccin n'a été trouvé. Florent Kema.
J'ai demandé à la population de respecter tous les conseils donnés par les chefs de l'État. Et puis, j'ai conseillé à la population de respecter même les conseils que les médecins les donnent, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. C'est les médicaments de ça, c'est les conseils, les mesures de barrières qu'on doit respecter.
À l'issue de cette sensibilisation, près d'une cinquantaine de seaux à robinet et des palettes de savon ont été distribués au groupement de plus de 11 villages. Ces dispositifs seront installés dans des lieux publics, les formations sanitaires et les abords des routes. Ceci pour permettre aux visiteurs passant et à la population de se laver régulièrement les mains, souligne le donateur. Un geste salué par Élisée Soukoula Namnaonde, un habitant de Bouaï qui invite ses pairs à prendre au sérieux la propagation de cette maladie qui, selon lui, risque de mettre en péril la vie de toute une population.
C'est quelque chose qui n'est pas à la légère, mais c'est une chose qui est sérieuse pour toute la population.
La distribution de ces kits d'hygiène par l'élu de la nation est une première pour la population de Nanabakassa qui, par manque de moyens de communication, ne connaît pas encore cette maladie. Raphaël Nganaré, Bosangwa, Radio Ndekeluka.
Le journal se poursuit sur Radio Ndekeluka. Encore 36 nouveaux cas positifs de Covid-19 confirmés en République centrafricaine.
La confirmation a été faite à l'issue des tests effectués les 8 et 9 mai par l'Institut Pasteur de Bangui et le Laboratoire National. À ce jour, le nombre total des cas confirmés est de 179 malades, dont 12 guéris et 0 décès. Ouvrons actuellement la page des sports et c'est avec vous, bienvenue, bonjour.
Bonjour Rolf, bonjour à tous.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports réagit à propos de la décision de la CAF qui suspend les matchs des seniors masculins au complexe sportif Barthélemy Boganda.
C'est avec désolation qu'il a appris la nouvelle qui n'honore pas le pays selon lui. De retour ce lundi matin au travail, Régis Lionel Dunda a rencontré la presse pour parler de cette situation. La responsabilité est partagée et le temps n'est pas aux accusations. Régis Lionel Dunda.
Cette décision est tombée, c'est un sentiment d'amertume. Mais déjà, je tiens à rappeler que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Vous savez, la maintenance est un défi, et c'est un défi républicain. Et ce joyau que nous avons, c'est nous tous qui devons travailler pour le maintenir. Aujourd'hui, la décision est tombée. Il n'est pas question de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Mais par contre, on peut travailler collectif pour relever ce défi. Le défi, c'est quoi? Vous avez vu tout ce que la CAF a énuméré comme manquement. Il y a une nécessité qui s'impose. Il faut réhabiliter notre stade, a priori le complexe Barthélemy Bouganda et a posteriori le stade Barthélemy Bouganda.
Le membre du gouvernement annonce la mise en place dans un bref délai d'un comité mixte élargi pour réfléchir aux actions à mener afin de réhabiliter le complexe sportif et atteindre les exigences minimales de la CAF en matière de stade. Écoutons de nouveau le ministre centrafricain des Sports, Régis Lionel Dunda.
La petite idée que moi j'ai, je pense que dès la semaine prochaine ou la fin de cette semaine, nous allons convoquer une réunion avec toutes les parties, la Fédération Centrafricaine de Football, l'UNASPORT, les représentants des sports à la primature, à la semi-nationale et à la présidence, pour discuter. Mon souhait est qu'à la fin de cette discussion, un comité inclusif soit mis en place de réflexion pour que nous puissions agir. Et entre-temps, j'apporterai le dossier au Conseil des ministres. Cette période pour les sportifs, c'est considéré comme étant une trêve. Et si elle peut nous servir à répondre au moins à un pourcentage élevé à cette problématique, ça serait une bonne chose. Mais nous allons travailler ardemment pour réussir. C'est ça l'objectif.
Les propos recueillis par vous, bienvenue Bélou.
Selon le document de la CAF, en cas de non-conformité du stade, la Fédération de football devrait jouer les prochains matchs des compétitions de la CAF et de la FIFA dans d'autres stades homologués dans les pays d'autres associations membres de la CAF. La CAF organisera uniquement une visite d'inspection de suivi entre le 30 juin et le 30 juillet 2020 afin de procéder à un contrôle final et de vérifier si le stade a été porté au niveau requis. Puis, elle va prendre une décision finale. Un dossier donc à suivre.
Ainsi s'achève la version en français de cette édition. Restez branchés pour la version en langue nationale après cette courte pause.